C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 128 du 2 février 2026. Aujourd'hui, un témoignage de courage, celui d'Eddie Reynaud, victime d'un guet-apens violent sur l'application Grindr à Nice. Nous parlerons aussi de Wikipédia comme levier de pouvoir pour documenter l'histoire queer francophone avec Michael David Miller et Pascal D'Angoisse. Et enfin, au segment Culture queer, on reçoit Alexis Comte pour explorer les nouvelles tendances artistiques de nos communautés.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Les applications de rencontres sont devenues le terrain de chasse de malfaiteurs organisés qui ciblent spécifiquement les hommes gays. On appelle ça des guet-apens ou des pièges à Grindr. Notre invité, Eddie Reynaud, est un militant associatif qui pensait bien connaître les risques. Pourtant, en février 2025, à Nice, il a basculé dans l'horreur. Eddie, tu as choisi de parler à visage découvert, malgré la violence que tu as subie, parce que tu estimes que la peur doit changer de camp. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage essentiel. Avant d'aller plus loin, dans cette entrevue, ben, elle contient des descriptions de violences physiques et de détresse psychologique, et je préfère vous en avertir. Il dit bienvenue à l'émission. Sans entrer dans Sans entrer dans tous les détails techniques de l'application Grindr, comment ce rendez-vous semblait-il banal? Comment est-ce que ça a pu bousculer en quelques secondes?
Une simple phrase. Une simple phrase froide d'un jeune homme. Donne-moi ton argent, t'as combien? Voilà. Tout a basculé par cette phrase et c'était voilà, dans une impasse. On devait donc aller chez cette personne, ce jeune. Et puis, par cette phrase, ça a basculé. Je me suis retrouvé à frôler le mur d'une impasse et les mains de ce jeune homme se sont retrouvées sur le col de ma veste, en répétant la question pour m'intimider. Et vu que je n'avais pas peur, enfin, je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas essayé de me débattre, je l'ai fixé dans les yeux. Bon, est-ce que ça l'a déstabilisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a permis peut-être de ne pas recevoir davantage de coups. Et ensuite, il a remis sa main sur mon cou, cette fois-ci pour m'étrangler, voilà, et pour me laisser parler, en fait, voilà. À un moment donné, il m'a dit « N'aie pas peur, je te parle gentiment ». Donc, voilà, c'est allé assez vite. Entre-temps...
Il n'y avait aucune raison de croire que c'était quelqu'un de violent, là. Tu avais vu les photos, tu savais...
Oui.
Puis tu dis, bon, le rendez-vous était donné dans un endroit public, bien que c'était un petit peu à l'écart, quand même, hein?
Oui, c'était une avenue qui se finissait en impasse. Et puis, en fait, je devais être seul avec cette personne. Et en fait, ils étaient deux, à parler calmement. Et puis après, et en fait, entre la discussion, quand je les ai retrouvés, le plus petit, autour d'1m50, 1m60, est resté en fait en contrebas de l'impasse. Et ce jeune homme, ce plus grand jeune homme que moi, enfin, moi je suis 1m89, mais lui est beaucoup plus petit, aux alentours d'1m80, mais en tout cas il était moins grand, mais plus baraqué que moi. Et lui, je l'ai suivi et arrivé dans cette impasse, voilà, c'est là qu'il m'a dit cette phrase, t'as combien en argent? Voilà, c'est là où tout a basculé.
Alors là, pour ceux qui veulent, je donne quand même quelques détails, tu as subi des violences physiques extrêmes. On parle de traumatisme crânien, blessure à la mâchoire et au coccyx. À quel moment tu réalisais que c'était une attaque préméditée et non juste un simple vol?
À partir de cette phrase, en fait, où tout a basculé, quand très vite, il a commencé à m'étrangler, mais suffisamment pour que je parle. Je restais féroce, mais bon, je sentais quand même que je ne maîtrisais plus la. Enfin, que j'avais aucune chance de m'en sortir. Je pensais vraiment que j'allais mourir ce jour-là. Et puis, en fait, entre-temps, son camarade. Enfin, on va dire l'agresseur passif, et lui, c'était l'agresseur actif. L'agresseur passif est arrivé, et lui, il a serré jusqu'à l'asphyxie, le plus grand. Et puis après, j'ai perdu connaissance, et je me suis réveillé. Enfin, mes yeux sont réouverts quand ma tête a heurté le mur. Voilà, donc c'était le traumatisme crânien. Et puis, trou noir à nouveau, donc j'ai à peu près une perte de connaissance d'une heure. Et puis, je me suis réveillé courbé. Et à partir de là, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé, puisque j'avais perdu la mémoire?
Ah bon.
Voilà, une courte mémoire, mais j'avais quand même perdu la mémoire.
Donc, aucun moyen de se rappeler de quoi avaient l'air vraiment les agresseurs à ce moment-là.
Non, j'ai même pas pu faire un portrait robot. Je savais juste que le plus grand portait un survêtement rouge et des baskets noires, des cheveux frisés. Et le plus petit, j'ai pu donner aucune description. Donc, voilà, j'ai un trou de mémoire d'une heure. D'une heure, impossible de retrouver cette mémoire. Et quand je me suis réveillé, enfin, dans cette impasse, j'ai perdu le. Enfin, je me souvenais plus de pourquoi j'étais là, ni dans quelle ville, dans quel pays. Enfin, même mes proches, je les avais oubliés.
Ouf.
Après, c'est arrivé petit à petit, mais en tout cas, je ne peux pas me souvenir de mes agresseurs. Donc, en tout cas, voilà. Après avoir été étouffé, qu'on me retrouve, enfin, que je me retrouve même dans cette impasse, là, j'ai aucun détail. Donc, comme j'ai souffert du coccyx, on m'a sûrement donné des coups. Voilà. Mais ça, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je ressentais les douleurs. Après, ce que je peux dire, c'est que j'étais habillé. Donc, on ne m'a pas violé. Enfin,
Ouais.
après, on aurait pu me faire des attouchements, mais ça, je ne le sais pas. Voilà.
Alors, malgré la brutalité là, de tout ça, tu as quand même réussi à garder un certain calme durant l'agression. Qu'est-ce qui a fait que tu as gardé ce calme? Ton instinct de survie ou carrément le fait aussi que tu es un militant?
En fait, j'aime beaucoup analyser les autres. Et je n'ai. Étant donné que je n'ai pas vraiment l'habitude, moi, de je vais pas me débattre. Enfin, disons que mon instinct de survie, ah oui, a joué un rôle fondamental, en quelque sorte. Mais pour moi, je savais que enfin, je ne pensais pas que j'allais survivre. Donc, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est analyser. J'ai essayé de l'analyser. Et je me suis dit, en fait, il n'y a aucune raison d'hurler, de paniquer, parce qu'il risque peut-être de me frapper, enfin, en tout cas de me donner un coup qui sera impardonnable. Donc, je suis resté féroce, en le regardant dans les yeux, pour le déstabiliser. Et ça a fonctionné, enfin, ça a sans doute fonctionné, parce que, enfin, on ne saura peut-être jamais, mais en tout cas, grâce à le fait d'avoir analysé cette personne, je m'en suis pas mal tiré.
En tout cas, je t'avoue que certaines personnes qui auraient vécu ça seraient prises de panique et auraient hurlé, mais c'est peut-être ça qui t'a aidé. Aujourd'hui, où en est l'enquête?
L'enquête, où est-ce qu'elle en est malheureusement? En avril, donc l'affaire a été ouverte le 9 février à peu près. Une réquisition judiciaire a été envoyée à Grindr, pardon les mots pour mon français, pour mon anglais, enfin qui est très mauvais. Grindr, et à ce jour, Grindr n'a toujours pas répondu. Donc l'enquête a quand même été menée. En avril, a été classée. Et en juillet, elle a été réouverte. Parce qu'apparemment, enfin, il y avait encore eu de nouvelles agressions. Et en fait, c'était pas eux. Donc voilà, l'affaire a été classée fin juillet 2025.
On pointe du doigt, en fait, tu pointes du doigt Grindr, parce que Grindr
Oui.
ne collabore pas, n'aide pas les enquêtes policières ou les enquêtes
Jamais.
judiciaires.
Aucune.
Ouais.
Voilà, française ou internationale.
Ouais. Donc, il faut dénoncer ça.
Oui, dénoncer, oui. Je pense qu'il faut qu'au bout d'un moment, à un moment donné, les applications de rencontre. Bon, là, c'est Grindr, mais ça peut être Tinder, ça peut être. Il y a d'autres applications, hein, françaises, enfin internationales. Je veux dire, il faut que eux communiquent parce que ils ont quand même des abonnés. Et ces abonnés, enfin, doivent quand même être en sécurité. Et si, en tout cas, si, enfin, en sécurité, c'est un maigre mot, mais en tout cas, il faut que
Faut mieux
au
protéger les.
moindre
Ouais.
problème, il faut que, voilà, qu'ils coopèrent avec les services de police. Ça, c'est pour au moins les retrouver.
J'aimerais.
Ils ont
Ouais,
les adresses mail,
ouais.
les numéros. Enfin, ils
Les
ont tout
adresses
un tas
IP,
de.
il y aurait façon de retrouver.
Exactement,
Ouais.
c'est ça.
J'aimerais, Eddie, reparler de toi parce que au-delà des blessures physiques, là, il y a quand même des séquelles à tout ça. Tu vis avec une hypervigilance, des crises de panique. C'est continu, ça se continue toujours, ça?
Oui, ça continue. Il y a quelques semaines, je me suis réfugié dans une laverie parce que j'ai fait une crise de panique. Mais bon, voilà, ça s'est pas reproduit depuis. Enfin, en tout cas, d'une telle violence. Je pense que je suis encore terrifié, moins à l'idée de sortir le début de soirée. Mais je suis quand même, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'hypervigilance. C'est dès que enfin, j'entends des pas derrière moi, je m'arrête, je laisse passer. Après, les bains de foule, je les évite, mais bon, j'habite dans une grande ville. Donc, je ne vais pas. Enfin, je peux pas ne pas sortir de chez moi. Donc, j'apprends à vivre avec. Voilà. J'apprends à vivre avec et je n'oublie pas.
Ce
N'oublie pas et j'avance.
témoignage aujourd'hui, tu parles de ton devoir de militant, de partager ton témoignage. C'est quoi là, les signaux d'alarme que la communauté devrait surveiller là, dans ce genre de situation?
Bah, il n'y a pas vraiment de signaux parce que c'est vraiment compliqué. Je pourrais dire en fait que peut-être se voir, peut-être dans un pour tout type de rencontre, hein, sans préciser, mais se voir dans un café, dans un restaurant, enfin un lieu public. Et en même temps, après, la personne en elle-même peut passer à l'acte, si elle veut. Elle peut être violente. Donc, on peut, en fait, en fait, non, je peux rien dire. Enfin, à part ça, faut s'en tenir au café, au restaurant, enfin, faut s'en tenir au lieu public, mais où aller, à la limite, dans des
Ben,
lieux, des espaces communautaires, à la limite, voilà.
moi, parce que je peux
Des
t'amener
espaces
ici, il y a
publics,
eu,
des
oui,
choses comme ça.
il y a eu à Sherbrooke, il y a quelques années, deux personnes qui ont été agressées là, dans un guet-apens Grindr qui refusent de parler parce qu'ils ont honte, en principe, de ça. Et toi, tu dis que la honte doit changer de cas.
Oui, c'est pas aux personnes victimes ou témoins de ces agressions qui doivent avoir peur ou être, se sentir humiliés, c'est l'inverse. C'est les agresseurs, agresseurs masculins, féminins, qui doivent avoir peur et être gênés. Enfin, où va-t-on si maintenant. Où va-t-on? On ne peut plus vivre, vivre libre. Et, on est heureuse et heureux, enfin, dans son genre et avec son orientation sexuelle, amoureuse ou romantique. Donc, je pense que faut pas se laisser faire, ou en tout cas se laisser, oui, se laisser envahir par des personnes mauvaises. Alors, bon, en tout cas, témoigner, faut quand même se sentir prêt, puis il faut aussi être en sécurité. Se sentir en sécurité et libre, moi je le fais parce que j'ai quand même cette liberté et puis parce que j'ai aussi cette. Voilà, c'est mon devoir de militant, mais après, chaque militant réagit pas de la même manière. Enfin, voilà, chaque être humain est différent, donc.
Chaque personne agit différemment, oui. On va devoir se
Voilà, je
terminer.
n'en voudrais pas si vous témoignez pas.
Ouais, on va devoir terminer là-dessus, mais je vais quand même dire que ton témoignage, Eddie, nous rappelle que derrière l'écran, la vulnérabilité, elle est réelle et que la haine cible encore violemment nos communautés. Fait que je rappelle donc l'importance aussi, de signaler tout comportement suspect, ne pas rester isolé après une agression.
De déposer plainte
Déposer
aussi.
plainte.
Oui.
Merci beaucoup, Eddie, d'avoir pris le temps
Merci
de
à
nous
vous.
parler. C'était Eddie Renault qu'on a rejoint à Nice, qui a été victime donc d'un attentat Grindr. Il est membre de SES Homophobie. Merci.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
C'est un outil que nous utilisons quotidiennement, mais dont nous ignorons souvent le potentiel politique et social, Wikipédia. À 25 ans, l'encyclopédie collaborative la plus consultée au monde est-elle un véritable levier de transformation pour nos communautés de LGBTQIA+? Comment peut-on l'utiliser pour combler les angles morts de l'histoire queer francophone au pays? Pour en discuter, je reçois deux passionnés du savoir libre, Michael David Miller, qui est président de Wikipédia Canada et bibliothécaire à l'Université McGill. Bienvenue à l'émission, Michael.
Bonjour, merci, Denis.
Et on a aussi en ligne Pascal D'Angoisse, qui est responsable du programme pour Wikipédia Canada. Bienvenue, Pascal.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Alors, point de départ, je vais commencer par cette question-là. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à devenir ce qu'on appelle des wikipédistes, c'est ça le terme, et à vouloir changer les contenus de l'intérieur?
Je commence.
Oui, vas-y, Michael.
Moi, je crois que c'est une belle histoire. 2017, il y avait Wikimania Montréal, 350e anniversaire de Montréal. Le 150e du Canada, puis il y avait Fierté Montréal Canada qui était à Montréal. Et là, j'avais découvert RuPaul's Drag Race à cette époque-là. Et je commençais à pitonner dans Wikipédia pour voir quelle est la couverture de la communauté queer québécoise dans la Wikipédia francophone. Puis bon, c'était pas très beau. Ouais. Et donc, je me suis dit, peut-être je peux contribuer à ça. Et donc, j'ai décidé de commencer à travailler sur des drag queens québécoises et des auteurs et autrices queer de notre communauté, dont notamment Kev Lambert, Barbada et... Et c'est devenu une affaire où je me suis dit, il faut que ma culture d'adoption existe sur l'Internet. Donc, j'ai commencé à contribuer.
Parce qu'on doit dire, qu'on peut dire, tu es américain d'origine ou états-unien d'origine,
Oui, exact. Parce qu'on est américain au Canada et au Mexique aussi.
Tout à fait. Et tu as choisi de venir vivre au Québec. Alors, c'est intéressant comme passage. De ton côté, Pascal, qu'est-ce qui, toi, t'a vraiment incité à devenir wikipédiste puis de vouloir changer les contenus dans Wikipédia? Ou pas de les améliorer, oui.
Oui. En fait, je travaillais dans un labo de recherche en données en sciences humaines. Et puis, on travaillait sur un projet archivistique, mais qui restait quand même très, très académique et qui n'allait pas vraiment rejoindre la grande population, la vaste population. Et alors, on a décidé de commencer à transférer les données qu'on avait sur le mouvement de libération lesbien et gay au Canada en données wiki. Pour justement pouvoir, un petit peu comme Michael disait, pour pouvoir raconter l'histoire de ce mouvement à tout le monde qui voulait la connaître, cette histoire-là.
Pourquoi c'est crucial de documenter l'histoire des communautés de la diversité sexuelle et de genre, spécifiquement francophone, canadienne, sur Wikipédia? Donc, on est vraiment dans l'intersectionnalité, c'est le cas de le dire.
Ah oui, non, c'est très précis. Moi, je me pose toujours la question, si on n'existe pas sur l'Internet, est-ce qu'on existe? Oh. Moi, je sais que j'existe, mais puisque tout le monde a cette impression que toute documentation, toute information importante existe en format numérique, ce qu'il faut d'ailleurs, si on regarde toutes les bibliothèques nationales, les bibliothèques d'une manière générale, il y a un petit pourcentage du contenu documentaire qui est numérisé. Donc, ma manière de penser, c'est qu'il faut qu'on existe sur l'Internet, les communautés queer, parce que les IA s'entraînent sur Wikipédia. Il y a tellement de choses qui utilisent Wikipédia comme source d'information de base. Si on n'est pas là pour ces outils-là, on n'existe pas.
Quels sont les principaux fossés de contenu, justement, là, sur les sujets les plus marginalisés qu'on observe sur cette plateforme?
Ah, pour moi et Pascal, on peut en parler pendant des heures, mais on va être très rapide. Je crois que le plus grand, c'est qu'il n'y a que 20% des biographies sur la Wikipédia francophone qui portent sur les femmes. Sur 2,7 millions d'articles dans la Wikipédia francophone, il y a 38 000 à peu près qui portent sur le Québec. Et les sujets les plus couverts dans l'ensemble de la Wikipédia francophone, c'est l'histoire militaire, les sports, les actrices porno. Je peux dire ça?
Oui, on peut dire ça.
Pascal, c'était quoi? Les jeux vidéo. Et donc là, c'est vraiment des sujets qui s'intéressent à un public ou qui ont un intérêt pour le public plutôt masculin, je dirais centre de gènes hétéro.
J'aimerais lancer la balle à Pascal. En quoi le simple fait d'ajouter un article ou une référence peut-il être un acte militant pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre?
C'est une super question, ça.
Ça
rejoint ce que Michael disait, donc le fait d'exister. Je crois que ça rejoint aussi le fait que, c'est un peu comme le mouvement féministe, le mouvement gay, lesbien, LGBT, prendre sa place. Donc, c'est sortir de la noirceur, sortir de cette invisibilisation de faire connaître aux gens qu'on existe, qu'on prend de la place, qu'on a une voix, qu'on a une histoire, une culture, et qu'il y a des grandes personnes qui ont existé, qui faisaient partie de ce mouvement-là. Et ça fait vraiment contrebalance à toute cette culture dominante, hégémonique, qui est axée, comme Michael disait, sur la guerre, les sports, les jeux vidéo, tout ça. Donc ça vient chercher en fait tout un penchant de la culture de l'histoire qui existe. Et il nous faut une diversité d'opinions, une diversité de perspectives pour bien comprendre le monde dans lequel on existe et pour se sentir qu'on fait partie de cette société-là aussi.
Je dois dire que lorsque Wikipédia a commencé, il y a 25 ans, j'étais à l'emploi de Radio-Canada, puis c'était pas vraiment une référence, c'était pas très sérieux, il y avait tellement d'erreurs. Il y avait même une page, il y a une page sur moi, je l'ai corrigée parce qu'il y avait des erreurs dessus. Je me dis quand même, je suis la bonne source, là, après tout. Mais c'est plus ça, là, on peut plus dire ça maintenant de Wikipédia.
Gérino, il y avait des critiques au début. Moi, je suis assez d'accord avec des critiques. On pouvait quasiment écrire tout ce qu'on voulait écrire. Et j'oublie quel conflit, c'est un conflit militaire à l'étranger. Quelque part dans le Moyen-Orient, j'oublie lequel, peut-être c'était l'Irak ou l'Afghanistan, il y avait des guerres d'édition où le monde écrivait des faussetés, puis c'était à peu près à cette époque-là où la communauté s'est dit, il faut qu'on ait une capacité de vérifier des sources. Donc c'était là où il y avait cette règle qui s'est imposée, où il faut que toute information écrite dans Wikipédia soit suivie d'une source secondaire, c'est-à-dire d'une source média ou d'une source universitaire comme un article évalué par les pairs.
D'accord. Donc, est-ce que Wikipédia c'est devenu maintenant plus accessible aux personnes marginalisées, notamment celles et celles qui veulent, ou celles, celles ou ceux qui veulent faire des contributions?
Je dirais oui et non.
Non?
Le oui, c'est que je trouve que l'interface est beaucoup plus facile à contribuer maintenant. Depuis 2017, presque tout le monde peut contribuer si on sait modifier un petit peu une page web dans un mode lecteur. Donc, il n'y a plus de modification de code. Mais le défi, c'est les médias. On sait qu'on vit une crise des médias où il y a de moins en moins de médias qui existent, puis les médias qui sont plutôt des médias marginalisés disparaissent. Et je me souviens à une époque, on avait deux, trois publications LGBT à Montréal, puis là, on n'a que Fugue qui reste. Et donc, puisque Wikipédia se repose sur des sources secondaires, lorsqu'il n'y a pas assez de sources et les médias sont en crise, les médias ne vont pas forcément aller s'intéresser aux sujets aussi marginaux parce que ça ne rejoint pas le plus grand public. Donc, je crois que oui, c'est plus facile de contribuer, mais non parce qu'on n'a pas des sources secondaires pour pouvoir contribuer.
Alors récemment, il y avait une conférence sur Wikipédia comme levier de transformation. C'était à l'UQAM, je pense, si
Oui.
je ne me trompe pas. Quels sont les projets concrets là, qui découlent pour améliorer la visibilité de la diversité sexuelle et de genre?
Peut-être je peux laisser Pascal
Oui,
commencer.
Pascal, oui.
Oui, en fait, il y en a plusieurs. Il y a des projets qui existent directement sur Wikipédia, donc on peut trouver une page projet qui nous parle et sur laquelle on peut commencer à contribuer. Ça peut être de la traduction de texte, tout simplement. Ça peut être de corriger la syntaxe. Il y a aussi plusieurs organisations et institutions qui ont des Wikitons. Donc, ça, en fait, c'est un marathon d'édition de Wikipédia qui, normalement, aide à former les contributeurs, contributrices et, après ça, qui offre vraiment une séance où tout le monde, ensemble, de façon sociale, on contribue. Il y en a un qui s'en vient le 22 mars à la BANQ à Montréal. Il va aussi avoir, il y a aussi des conférences, des choses très intéressantes qui se passent. Montréal sera le lieu pour Queering Wikipedia.
Ah oh, oui,
Donc, il
c'est
va y avoir
vrai.
plein de belles activités à travers ça. Ça, c'est en octobre cette année. Donc, il y a vraiment plusieurs types d'événements, d'activités, qui sont possibles pour contribuer à Wiki.
Sinon, je peux ajouter aussi qu'il y a beaucoup de profs d'université qui enseignent avec Wikipédia. Donc, s'il y a des profs en études de genre qui nous écoutent, je crois que c'est quand même assez intéressant parce que ça donne une occasion aux étudiants de contribuer à Wikipédia, de remplacer des devoirs jetables avec un devoir qui est durable. Donc, c'est quelque chose qui contribue directement à la société parce qu'avec toute la modification des nouveaux articles que les étudiants écrivent, ben, ça ajoute la petite pierre à cette sorte de rééquilibre de nous faire exister, en fait, sur Wikipédia.
Michael, en tant que bibliothécaire, là, je parlais à ton autre rôle, comment les archives, les bibliothèques, parce qu'il y a les archives gays, entre autres choses, les archives du Québec et tout ça, comment peuvent-elles aider à sourcer et à crédibiliser nos histoires sur le Wikipédia?
Mais cette question est très d'actualité parce qu'on est dans les 4 semaines de la campagne annuelle une bibliothécaire, une référence, où le mouvement Wikimedia fait appel aux bibliothécaires et aux archivistes de contribuer à Wikipédia en améliorant les pages Wikipédia par simplement ajoutant des références. Ce qui nous donne une place assez intéressante dans le mouvement Wikimedia, c'est que nous avons l'accès à des sources secondaires et beaucoup de sources secondaires qui n'existent qu'en format papier. Donc, c'est assez intéressant. Le moment où je me suis trouvé vraiment cool, c'est lorsque je suis allé dans un congrès wiki et j'ai dit aux gens que j'étais bibliothécaire. Le monde a dit « Waouh, c'est génial ». Tout le monde savait ce que je faisais, tandis que dans ma vie quotidienne, personne ne sait ce que je fais. Mais c'est pas grave, c'est pas de la faute. Ça nous permet, en fait, d'utiliser les ressources qui sont à notre disposition, d'améliorer un outil que nos étudiants, que nos usagers, que nos publics utilisent. Et c'est quand même intéressant parce que notre but en tant que bibliothèque et de bibliothécaire, c'est de démocratiser l'accès à l'information, qui est le but principal de Wikipédia et de ses projets frères.
Je vais lancer peut-être la question à Pascal. On est dans une période qu'on appelle la post-vérité. Vous allez me permettre cette petite incursion dans la dystopie trumpienne. Mais on vit là-dedans. Comment on peut naviguer, surtout... on est dans la vérité, Pascal, comment est-ce qu'on fait ça à Wikipédia?
En fait, c'est intéressant parce qu'on utilise, comme Michael disait, qu'il y a des pédagogues, des profs d'université, de cégep qui utilisent Wiki pour enseigner sur un sujet. C'est qu'on peut aussi l'utiliser pour enseigner sur la mésinformation et l'analyse critique. Donc, sur une page Wiki, on peut toujours aller voir les sources et les références de quelque chose qui est proclamé comme étant vrai. Donc déjà ça, on peut s'habituer à aller vérifier les sources, à cliquer sur les liens, à essayer d'en lire plus. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est que on peut, en lisant l'article, on peut aussi aller voir les discussions qui ont eu lieu dans la création de la page. Donc un sujet qui peut être un peu plus politique ou un peu plus tendu, on peut aller voir comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là, quels arguments est-ce qu'ils ont eu. Donc, il y a toujours moyen de comprendre d'où vient l'information, comment elle a été créée et comment arriver à un point de vue qui est plus neutre et qui est plus, dans ce sens-là, véridique. Donc, c'est vraiment d'aller chercher plus d'informations.
Rapidement, Michael.
Et c'est quand même intéressant parce que Wikipédia, c'est une des sources d'information qui a résisté le plus à la désinformation.
Merci beaucoup. Donc, Michael David Miller et Pascal D'Angoisse, merci beaucoup pour ces propos très éclairés sur Wikipédia, qui est drôlement mieux sourcé que X.
Merci.
Puis après la pause, c'est le retour de notre segment Culture Queer. On reçoit l'artiste, l'acteur Alexis Comte, un acteur trans qui s'est fait remarquer dans le film Juste Xavier. Tout de suite après la pause.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Allô, allô, bonjour tout le monde. C'est mon segment, mon petit segment préféré qui est Culture Queer. Aujourd'hui, donc, on a avec nous Brian Solway qui est à Québec. Salut Brian, tu parles de quoi aujourd'hui?
De deux romans, Billy Ray Belcourt chez Triptyque et aussi Pierre-Luc Gagné chez Amac.
Et on a aussi avec nous, on l'a rejoint, je ne sais plus dans quel bout où tu es, Joël, mais tu es en ligne toi aussi aujourd'hui et tu nous parles de quoi? Allô, Joël!
Allô, allô! Je vais vous parler du festival plein écran de courts-métrages qui a eu lieu en fin de semaine, entre autres.
Ah, excellent, excellent. Et notre invité, du moins, il est au téléphone, c'est Alexis Comte qui est acteur. Allô, Alexis!
Hey, salut!
On est content de te recevoir. Et en fait, je vais commencer avec toi, Alexis, pour cette partie de l'émission. Alors, on le connaît de plus en plus, la scène culturelle, mais il vient de faire une entrée remarquée au grand écran dans un rôle qui résonne avec sa propre histoire. Le film, donc, c'est Juste Xavier de Stéphane E. Roy. Il incarne le rôle de Xavier, un avocat trans qui retrouve sa famille pour Noël après des années d'absence. Alors, ma première question, c'est ton tout premier rôle au cinéma. Et on peut dire que tu fais pas les choses à moitié puisque tu tiens le rôle titre. Comment on se sent quand on se voit pour la première fois sur une affiche partout, là, au Québec?
Ça fait un peu bizarre, là, c'est sûr. D'abord, je vais juste corriger une chose, c'est pas vraiment ma propre histoire.
Non, c'est l'histoire qui te ressemble, en fait, ouais.
Je suis vraiment trans, mais c'est pas c'est quand même basé sur un fait vécu, mais c'est pas sur ma vie.
Ouais.
Mais c'est vraiment c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment quasiment défoncer les portes en grand, là, parce que j'avais jamais fait ça. Puis me voir sur un grand écran, vraiment, je pensais jamais que ça allait arriver, surtout pas un rôle principal comme ça en débutant.
Oui.
C'est une chance. En tout cas, moi, j'ai savouré chaque seconde de ce projet-là. Et oui, quand je me suis vu la première fois sur l'écran, oh my God, c'est vraiment bizarre.
Ben, écoute,
moi, je me reconnaissais pas moi-même. Là.
Oui, parce que moi, je t'ai vu en personne, là, ici, en studio, dans une autre émission. Et effectivement, tu sais, t'as vraiment l'air... Est-ce que je peux dire ça, puis pas me faire fusiller, mais t'avais l'air straight, là, tu sais. Vraiment.
Ouais.
Le film raconte un retour... En fait, non, je pense qu'il faut que je parle de comment tu as eu ce rôle. C'est une actrice qui s'appelle Marilyn Bastien qui a suggéré ton nom alors que tu n'avais jamais joué au cinéma. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette histoire de transition entre un non-acteur et tête d'affiche.
En fait, eux, ils étaient sur le projet. Marilyn Bastien était sur le projet avec Stéphane Leroy et Patrick Desrosiers. Puis, dans le fond, ils cherchaient... Ils avaient fait des castings, ils avaient fait des auditions, puis ils trouvaient pas exactement ce qu'ils cherchaient. Et puis, ben Marilyn et moi, on s'était rencontrés il y a une vingtaine d'années sur une émission de télé... c'était une télé communautaire, là. Je crois que ça s'appelait Sac à dos. Puis, elle s'était souvenue de moi parce qu'on avait toujours gardé contact sur les réseaux sociaux. Puis là, elle a proposé ma candidature à Stéphane Leroy, qui, lui, il a trippé, il a vu mes photos, il a dit « Hey, mais en plus, t'es un vrai trans, il est allé à tout le monde en parle, il a fait « Je suis trans », tu sais, donc il y a quand même une petite expérience télévision sans nécessairement être de comédien. » Fait que ils m'ont fait venir en audition comme ça. Fait que moi, j'ai comme tenté ma chance. Ils m'ont donné un texte. Apprends ça, viens en audition. Puis moi, j'étais stressé, là. Je savais pas comment ça se passait. Finalement, moi, je me suis trouvé très mauvais. Eux, ils m'ont trouvé très bon. Puis ils m'ont demandé de revenir en audition une seconde fois avec, dans le fond, des possibles Ariane. Puis Ariane, là-dedans, c'est la blonde, la nouvelle blonde. De Xavier. Puis c'est ça. J'ai auditionné avec 4 potentiels Ariane. Puis ça a été une longue journée. Il y avait aussi un autre potentiel Xavier. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai eu le rôle miraculeusement. Et d'ailleurs, l'autre Xavier potentiel, il joue aussi dans le film, mais on le voit pas longtemps. Donc on est 2 trans dans le film.
Bon, mais quand même. Ça fait pour une fois qu'il y a des rôles pour des personnes trans, on va en profiter.
Oui, exactement.
C'est un film donc qui raconte un retour en famille. Je sais que c'est pas ton histoire à toi, mais c'est quand même... tu as mentionné en entrevue que tu as vécu beaucoup de situations qui ont été montrées dans le film. Est-ce que ça a été thérapeutique ou difficile de retourner dans ces émotions-là, que de la colère, de la tristesse, pour les besoins de ce rôle?
Ça a été les deux.
Ouais.
Il y a des bouts que c'est difficile parce que, oui, c'est des choses que j'ai vécues différemment, mais presque pareil en réalité, là, parce que le feeling reste pareil. Mais de retourner comme dans ces sentiments-là, même si ça fait des années, je les sentais encore comme si ça venait d'arriver, mais il fallait quand même que je me dose parce que Xavier, dans le film, faut quand même qu'il soit... sympathique puis qui se dose, on s'entend.
Oui.
Dans vraie vie, si j'avais pu les exprimer pour vrai, mes sentiments, j'aurais probablement explosé beaucoup plus que Xavier. Dans le temps, j'ai pas explosé parce que bon, j'avais tellement honte, j'étais tellement puis j'étais jeune aussi. Xavier, lui, il est presque à la quarantaine. Donc lui, il a son expérience d'adulte. Puis la thérapie, elle s'est passée où justement du fait que là, j'ai pu l'exprimer, le sentiment que moi, j'avais refoulé dans ces années-là. Mmh. Donc, toutes les fois où Xavier, il vit une situation là-dedans, il peut l'exprimer, chose que moi, j'ai pas vraiment pu le faire. Donc oui, ça a été thérapeutique. Il y a des affaires qui ont sorti. Puis en plus, moi, à ce moment-là, je venais de vivre la perte de ma mère, qui venait de décéder. Écoute, elle est décédée le 3 mars, puis on a commencé à tourner, si je me trompe pas, le 14.
Ouf, ouais, quand
ça
même.
Les pratiques, le 14, oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment très, très rapproché, mais ça m'a quand même servi parce qu'il y a des scènes où j'étais pas nécessairement triste, où je pouvais pas vraiment nécessairement ressentir la tristesse parce que moi, c'est sûr que c'était comme vraiment très, très débutant. Je pense que c'était le deuxième jour de tournage, il fallait qu'on tourne la scène, une scène que je suis dans la voiture puis que là, je suis triste. J'ai pensé à ma mère, ça a été très facile.
Je vais ouvrir quand même, juste avant de passer à autre chose, mais je vais ouvrir peut-être à mes autres collaborateurs, collaboratrices, s'ils ont des questions. Joël, c'est un peu plus difficile quand on n'est pas en studio d'intervenir, mais est-ce que tu te sens interpellé par ce que vient de dire Alexis?
Ah, ben vraiment, puis je voulais savoir, Alexis, par rapport à ton expérience de tournage et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais revivre ou tu penses plus que c'était comme une expérience d'une vie une fois?
Ben, en fait, moi, j'avais cette impression-là que ce serait comme juste un one-shot deal. Sauf que, écoute, finalement, ça a l'air que je dois pas être si pire que ça, là, parce que j'ai été approché par deux agences qui voulaient me prendre comme comédien dans leur agence. Et finalement, j'ai signé avec une agence. Je suis rendu avec l'agence Acte 1. Puis, je trippe bien raide. Ils sont super gentils. Fait que théoriquement, je devrais avoir d'autres projets. Bon, est-ce que je vais avoir d'autres projets de rôle principal? Bon, ça, on le sait pas. On lance ça dans l'univers. Mais tu sais, je sais que je suis vraiment très chanceux parce que on m'a même dit pendant pendant qu'on faisait le tournage, des comédiens qui m'ont dit, tu sais, c'est vraiment nice parce qu'il y a des comédiens qui vont faire leur carrière toute leur vie, ils vont faire une très bonne carrière, mais qui n'auront pas nécessairement un jour un premier rôle, un rôle principal. Ils vont faire des deuxièmes rôles, des troisièmes rôles, puis ça va être bien correct aussi. Donc, vraiment comme défoncer les portes de choc, là, tu sais. Fait que j'avais conscience de ma chance, puis honnêtement, je l'ai vraiment savouré, puis j'ai remercié tellement de fois l'équipe, là. C'était vraiment... En tout cas, on va souhaiter que j'aille d'autres projets.
Ben oui.
Je sais bien que j'aurais peut-être pas encore des projets rôle principal, mais je vais quand même savourer chaque seconde.
Alexis, reste avec nous. Je vais quand même juste souligner que c'est quand même pas rien. En plus, on dirait en France, le cul bordé de nouilles. Genre, je viens de dire le mot cul en ondes. En tout cas, je l'ai fait, c'est trop tard. Mais parce que tu as quand même donné la réplique à des icônes, ouais, des monuments comme Rémi Girard et France Castel. Reste avec nous parce que j'aimerais... on va te reparler un peu plus tard dans le segment. Et nous, on continue.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez... Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et c'est le temps d'aller rejoindre Brian Saint-Louis à Québec qui a deux livres à nous proposer aujourd'hui, deux livres que j'ai lus aussi, alors j'ai hâte de voir ce que t'en penses. Attendre le lunch de Pierre-Luc Gagné.
Oui, hey, puis on fait toute une émission à distance, on se croirait en pandémie, c'est drôle, mais pour une fois, tout ça à la distance, voilà. Oui, Pierre-Luc Gagné, « Attendre le lunch », un récit chez Amac qui est paru il y a quelques mois. Il écrit beaucoup, Pierre-Luc Gagné, hein, d'ailleurs, il va en publier un autre sous peu, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous surveillerez ça. Un petit récit que je dirais qu'il faut prendre le temps de lire. Je l'ai lu quelques fois parce que c'est un très court livre, mais j'avais l'impression les premières fois de l'avoir lu trop vite et d'avoir pas saisi vraiment toute la portée de son message, qui est très intimiste, qui nous raconte sa vie de 10 ans à 30 ans, une vie qui est marquée par sa différence. Il aime les hommes, bien sûr, vous aurez compris si on en parle à l'émission. Tout le monde le voit un peu venir avant lui, il est dans un milieu entouré de femmes, donc il y a beaucoup de commentaires comme quoi il risque d'être homosexuel dans sa vie, il doit accepter un peu cette différence-là, mais surtout aussi une différence marquée par un surpoids. Très jeune, il va être diagnostiqué comme obèse morbide. Donc, une accumulation de différences qu'il va faire, avec lesquelles il va devoir jongler, ça va faire une jeunesse un peu difficile, des humiliations un peu, et pas nécessairement de jeunes, souvent des adultes autour de lui. On parle entre autres d'un professeur d'éducation physique qui n'aura pas été très fin avec lui. Puis ça l'a marqué beaucoup. Là, il va vieillir un peu sa relation avec ce corps-là. Il va tenter de perdre du poids, il va aller fort dans l'exercice, il va revenir un peu à un poids plus normal par la suite. On va parler de ses premières relations, on va parler de il a un peu de difficulté à cause des stigmas, on dirait, de son passé, à se mettre de l'avant dans une relation, à penser à lui aussi. Donc, c'est un récit très personnel qui nous livre dans ce livre-là. Pour prendre le temps de le lire et le temps d'être touché, je pense que j'aurais aimé un peu plus de détails, de crunchy parfois, pour vraiment bien rentrer dans cette histoire-là et tout comprendre. C'est pour ça que je suggère de le relire quelques fois. Mais c'est quand même un sujet intéressant, bien sûr, là, la différence. Il y a beaucoup de gens autour de nous qu'on connaît qui ont des problèmes justement avec le poids, qui ont eu des problèmes à se faire accepter par tout le monde. Donc, ça reste des thèmes qui sont très près de nous. Donc, un livre intéressant. Et je ne sais pas toi si tu avais aimé ce livre-là aussi.
Ben, j'ai la même réaction que toi, mais par contre, je n'ai pas pensé de le lire une autre fois. Ça m'aurait peut-être aidé parce que je suis un petit peu, des fois, je n'étais pas certain d'avoir tout compris. Puis je me dis, ben là, si quelqu'un de plus intelligent que moi, comme toi, l'a pas dû le lire deux fois, je viens de comprendre.
J'ai quand même pris la peine de le relire quelques fois, justement. Plus je le relisais, plus j'appréciais les détails, plus je comprenais exactement où il voulait en venir. Mais voilà, un livre à découvrir lentement pour bien l'apprécier.
Donc, attendre le lunch.
Bientôt, voilà.
Oui. Cœur infime de Billy Ray Belcourt. J'adore cet auteur.
Oui, qui a fait beaucoup de poésie. C'est son premier roman. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès. Roman gay de l'année passée. J'ai un peu de retard dans mes lectures. C'est pour ça que je vous en parle seulement maintenant. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine de le découvrir. On va aller dans le nord de l'Alberta, notre zone favorite du Canada.
J'ai vécu là assez longtemps pour savoir qu'il fait froid en maudit. Ah, tiens, je viens de dire maudit en nom.
Bon, voilà, c'est une grosse journée pour toi. ça commence, lui, on est un peu dans un personnage d'alter ego de Billy Ray Belcourt, universitaire, qui fait des grandes études, qui prépare son doctorat. Des premiers chapitres un peu verbeux, un peu académiques, il réfléchit à sa thèse, il se demande qu'est-ce qu'il va écrire, ça décolle pas, il n'arrive pas, et il se met à réfléchir de plus en plus au fait qu'il aurait besoin d'écrire un roman pour aller vers quelque chose de plus senti, quelque chose qu'il connaît. Il veut aborder des thèmes très, très ben, entre guillemets, woke, bien sûr, mais dans le bon sens du terme, il veut parler d'acceptation, il veut parler de ses communautés, il veut parler de différence. Lui-même, il est gay, il se tient avec des personnes queer. Il a besoin d'aborder ces questions-là dans son travail, c'est important. Donc, il va retourner sur les lieux de son enfance, dans le nord de l'Alberta, pour faire des portraits de gens qu'il connaît, des portraits de sa famille, des amis. Et là, on va plonger dans un peu tout le climat social de cette région-là au fil de ces rencontres. On va parler de féminisme, justement, des questions queer. On va voir à quel point c'est difficile dans ces régions-là qui sont plus reculées, où il y a moins de monde. Il y a beaucoup de profils masqués sur Grindr, par exemple. On a misère à sentir l'acceptation. Les conservateurs sont très présents. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes sur ce conservatisme-là que nous, dans un milieu urbain plus loin, on comprend moins bien, mais c'est vraiment pour eux une identité albertaine pour certaines personnes. Donc, c'est des questions, on est confronté un peu au point de vue, mais justement, on voit à quel point il y a des manques d'éducation, il y a beaucoup dans la... Lui, en plus, il est autochtone, donc manque des Premières Nations. Il y a beaucoup de personnes qui vont devenir parents très jeunes, par exemple, qui ne sont pas capables de s'occuper des enfants. Ça va créer des manques. On voit un peu la souffrance ordinaire de ces personnes-là dans ce livre-là. Donc, ça vient très touchant. Et il y a aussi, tout le long du livre, le personnage de son cousin Jack, qu'il connaît très bien, c'est son ami d'enfance, et lui, il a très mal viré. Il est en prison. Et on voit un peu le cheminement tout le long du roman de tout ce qui n'a pas bien été avec Jack, finalement. Donc, roman très intéressant. Ça nous amène vraiment dans ces communautés-là qu'on connaît peu, on est loin, et puis ça aborde énormément de questions qui sont très intéressantes, très pertinentes. On va parler aussi, bien sûr, de la réconciliation, de tout ce que le gouvernement a pu faire. On va parler des pensionnats autochtones, encore de la relation entre les Blancs et les Autochtones, qui sont difficiles dans ce coin-là. Donc, beaucoup, beaucoup de sujets lourds, mais là, on est dans le roman. Donc, ça aide à faire passer tous ces messages-là. C'est intéressant et on comprend pourquoi, là, justement, ça a remporté autant de succès, ce livre-là. Vous avez aimé aussi.
Oui, Cœur infime, oui, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cet auteur. Cœur infime, donc, de Billy Ray Belcourt. On continue.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Bon, il y a toujours avec moi, donc, Brian Saint-Louis à Québec, Joël Prudhomme qui... Je sais pas, t'es où, Joël? Je t'ai pas demandé.
Je
Je suis sur la route chez ma grand-mère.
Ah ouais, bon. Et puis, il y a toujours Alexis au téléphone. T'es toujours là, Alexis?
Oui.
Oui. Ben écoute, on va parler de cinéma, mais d'une autre façon, puis tu pourras intervenir si tu veux aussi. Alors, Joël, tu es allé voir, t'es intéressé à ce festival, donc.
Oui, le festival Plein Écran, qui est un
Ouais.
festival de courts-métrages. Puis ça, à chaque année, je le manque. Ça fait comme plein d'années que je le vois comme passer trop tard. Fait que là, cette année, je m'étais mis des alarmes. Je voulais vraiment pas le manquer. C'est un festival qui diffuse quatre films par jour. Il y a des représentations qui sont dans des cinémas locaux, mais il y a aussi une possibilité pour partout au Québec, de les écouter en ligne. Mais comment ça fonctionne? C'est que la journée où le film est présenté, c'est vous avez ce 24 heures-là pour aller l'écouter sur le site de Plein Écran tout à fait gratuitement. C'est vraiment chouette. Puis c'est ça, c'est des courts-métrages. Ça varie très court à, je pense que le plus long, je pense qu'on est dans du 20 minutes. Ça tourne autour de ça. Souvent, c'est du 10-15 minutes. Puis le format de ça permet une grande liberté. Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Il y a des films d'animation. Comme c'est plus court, ben on a plus une possibilité de le faire, même si on n'a pas un gros budget hollywoodien, là, fait que ça rend ça accessible. C'est vraiment, il y a vraiment des belles affaires. Il y a des films pour enfants, il y a des films plus pour adultes. Puis moi, j'ai accroché évidemment sur les deux films très queer que j'ai vus.
Tu me dis
Il y en
pas.
a un. Non, ça n'a pas rapport avec l'émission. Il y en a un qui s'appelle Anyway, je pisse assis,
Ah.
qui est un film de 2025, oui, réalisé par Zach Slattery. Et puis c'est un film, là, c'est vraiment un groupe d'amis qui va retourner dans sa ville natale et un des personnages, Sacha, qui est joué par Matteo Pinault. Lui, dans le fond, ben, c'est un homme trans, donc c'est la première fois qu'il revient dans sa ville après sa transition et après sa chirurgie d'affirmation. Donc, on est beaucoup, puis c'est vraiment un film léger, doux. On est beaucoup dans l'importance d'avoir des proches qui sont des alliés. C'est l'importance de l'amitié là-dedans est vraiment mignonne. Fait que c'est comme un petit film. Je pense que c'est 13 minutes. On est sur la route avec eux, dans la voiture, vraiment en mode road trip. Puis il y a des réflexions du personnage de Sacha. Il y a aussi des belles petites interactions avec ses amis. Puis dans le fond, on se rend jamais à la maison. On est vraiment avec eux. Puis l'objectif, c'est de pouvoir se baigner en torse nu, qui est quelque chose qui est un beau défi pour Sacha. Fait que on les suit, dans le fond, jusque-là. L'autre film aussi
Attends,
que
je pense
j'ai.
que je vais demander à Alexis de
Oui, vas-y.
réagir parce que je pense que c'est quand même une histoire qui doit être proche de la tienne, Alexis, ce genre de situation-là.
Oui, je ne l'ai pas vu, le court-métrage. J'en ai par contre entendu parler. Oui, effectivement, la première fois que tu te baignes avec ton torse nu après ta chirurgie, puis tu te dis, je vais pas rien me faire dire ou peu importe. Mais tu sais, encore là, bon, de nos jours, ces cicatrices-là, ben, les gens, ils les connaissent. Donc, on peut encore se faire pointer du doigt, ça fait que ça reste quand même encore une peur. Mais mettons quand on est seul chez nous, dans notre piscine, ou avec juste des amis, des gens qui sont là pour intervenir si jamais on vit encore une intimidation. Parce que moi, je te parle pour mon expérience, là, parce que j'avais tellement peur de vivre une intimidation.
Ben oui.
C'est vraiment un sentiment de liberté, de enfin pouvoir dire, OK, garde, je peux le faire, là. Mais c'est sûr que
Oui.
ça reste quand même, de nos jours, les cicatrices sont connues, nous, dans mon temps, les gens, ils se posaient pas trop de questions. Ils disaient, bon, il doit y avoir une chirurgie, il doit avoir maigri, c'est peut-être enlever un surplus de peau, mais tu sais, aujourd'hui, ces cicatrices-là sont connues. Donc, on peut encore se faire pointer du doigt, mais ça reste qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ose espérer que les gens comprennent un peu plus ça, disons, là.
Mais disons que des films comme
Oui.
celui-là, ça devrait aider, Joël, oui.
Ça devrait
Oui,
aider.
ça peut
J'espère.
être ça. Puis j'allais faire le parallèle aussi avec Alex que, ben, dans le fond, Mathéo est aussi un homme trans. Fait que je trouve ça vraiment rafraîchissant là, de voir des histoires racontées par et pour des personnes trans. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, vite, vite, il y a un autre film que je peux pas voir encore parce qu'il va être à l'affiche le 28. Fait que si vous nous écoutez puis que ça vous intéresse, vous avez 24 heures le 28 janvier pour aller voir Gender Reveal. Donc, ils décrivent, évidemment, je l'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air d'être des très bons et bonnes actrices, actrices. Fait que je vous encourage, c'est complètement gratuit. C'est un court-métrage sur plein écran.
Merci beaucoup, Joël.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus. Ah, c'est le moment de nos coups de cœur. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, vous allez me permettre, je vais en faire un. Ça va me permettre d'en parler. Alors, je vais aller à Québec en fin de semaine. Je suis allé au Théâtre du Trident pour voir une des pièces les plus attendues de la saison, l'adaptation du roman « Querelle » de Robert Val, de l'écrivaine Kev Lambert. Et je vous le dis d'emblée, là, c'est une claque. Le roman, paru en 2018, racontait l'histoire donc de cette grève sauvage dans une série du lac Saint-Jean où débarque Querelle, un ouvrier montréalais au magnétisme animal. Mais le metteur en scène, Olivier Artaud, a fait un choix brillant. Il a choisi de contextualiser l'œuvre en 2026 sous l'ombre portée du retour au pouvoir d'un Trump sanguinaire aux États-Unis. Ce choix apporte une urgence politique viscérale à la pièce et on sent que la violence qui couve sur scène est le miroir de celle qui gronde au sud de notre frontière. Je voudrais souligner donc dans le rôle-titre Gabriel Lemire, c'est tout simplement exceptionnel comme performance. Il incarne Querelle, qui est à la fois un fantasme et un paradoxe vivant. C'est un homme qui dénonce la machine capitaliste tout en consommant ses amants comme des friandises. Lemire arrive à rendre toute la complexité de cet être énigmatique dont la simple présence fait basculer les certitudes des jeunes hommes de la région. Je voudrais aussi saluer le travail exceptionnel donc aussi d'Ariel Charret dans le rôle de Jezabel. Elle apporte une humanité brute à ce portrait d'une communauté en crise où, comme le dit si bien Olivier Artaud, personne n'a totalement raison ou tort. Bon, tu sais, j'aime ça quand il explique ses trucs. Tous sont prisonniers d'une tragédie qui les dépasse. Ça, c'est Olivier qui dit ça. C'est une œuvre charnelle, baroque, où le verbe devient un coup de poing. Et si vous voulez voir comment le politique rencontre le corps dans ce qu'il a de plus violent et de plus beau, bien, manquez pas ça, Querelle de Robert Val. C'est au Trident, mais ça va venir. Ils font une tournée, ça va être ici à Montréal aussi, éventuellement. D'autres coups de cœur, peut-être?
Oui, bien, oui. C'est drôle que tu parlais de Kev Lambert, parce que moi, je suis tombée sur audio Radio-Canada. Il y a des livres audio. Oui. Puis, une fois de temps en temps, quand je fais de la longue route, là, en étant humoriste, j'en fais de la route. Fait que des fois, c'est le fun de me brancher sur un livre audio. Puis, il y a Que notre joie demeure de Kev Lambert, là, qui est disponible, qui est lu par Marie-Thérèse Fortin. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Fait que je vous conseille, si vous n'avez pas eu la chance de lire le livre, là, il est disponible sur audio aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur dans notre go? Ah, je vois Brian qui allume, oui.
Ah, ben moi, je peux faire un coup de cœur qui va devenir un coup de gueule, un peu les deux en même temps.
Oui.
Sur l'autre côté. Hey, je vais être encore sur Heated Rivalry, là, mais je trouve ça... on a tous aimé la série, voilà. On a trouvé ça tous très intéressant. Mais mon Dieu que ça envahit tous nos fils d'actualité. Ah oui. Les médias sociaux, bien sûr. On en voit...
Alexis, est-ce que tu envoies beaucoup des publications sur Heated Rivalry, toi?
Non, je ne dois pas avoir le même style.
Mais tu voulais dire, Brian, qu'est-ce que tu vois, toi?
Mais je trouve ça intéressant parce que ça amène beaucoup de discussions. On l'a vu encore hier, tout le monde en parle. Je veux dire, il y a des gens qui ont des questions, qui discutent de ça, mais mon Dieu, que c'est pas toujours bien repris, qu'il y a parfois des pentes glissantes qui sont prises. Puis on voit aussi à quel point il y a des fans qui sont devenus complètement fous. On a le goût de leur dire, mais gérez-vous un peu, ce n'est qu'une série.
Oui.
Mais à l'aube des Olympiques, c'est intéressant de voir, bien sûr, qu'on parle d'homosexualité dans le sport et tout. Donc, du bon et du mauvais dans ça. J'ai hâte de voir quand la poussière va retomber un peu, comment on va tous analyser tout ça.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
J'en peux plus!
Ah, j'adore entendre ça. C'est drôle, Brian, parce que moi, mon coup de gueule, qui était mon coup de cœur la dernière fois, c'est Heated Rivalry.
Oh.
J'ai lu le média Similiqueer. Alors, je vais quand même vous dire, là, j'ai beaucoup aimé la série, mais il y a quand même des bémols, puis je pense qu'il faudrait le souligner. Alors, c'est un média indépendant LGBT qui revient sur Heated Rivalry et souligne que tous les personnages ont un corps d'athlète bodybuildé, ce qui est en soi cohérent avec des athlètes de sport, mais même le fameux barista, là je suis en train de faire du divulgachage, mais en tout cas le barista qui devient l'amant de François Arnault, mais même lui qui n'est pas supposé avoir beaucoup de revenus, bien, il y a un corps d'un gars qui passe tout son temps au gym. En fait, beaucoup de choses aussi, hein, là, cette ultra-masculinité qui participe à une représentation hétéronormative du bon gay, musclé, viril et économiquement privilégié. Il y avait beaucoup de critiques parce que tout le monde est super masculin, il n'y a pas de folle. Le gay bourgeois, c'est sûr que les personnages principaux jouent au hockey, donc ils sont millionnaires, mais c'est finalement, on ne voit que cet aspect donc du gay baraqué. Et aussi, ben, il y avait aussi cette représentation de la sexualité. C'est le fun d'avoir des scènes érotiques, mais on laisse entendre vraiment que les hommes gays, encore une fois, sont hyper sexualisés. Alors, un bémol, si vous me permettez, à la série Heated Rivalry, des réactions?
Non, mais c'est juste une adaptation d'une série de livres en 6 épisodes.
Oui, je sais bien.
Il va y avoir des pour et des contre, il va y avoir des bons côtés et des mauvais côtés. Voilà, donc je trouve ça fascinant à quel point on analyse beaucoup, beaucoup cette série-là. Donc, ça l'en fait parler quand même, c'est intéressant, ouais. Mais voilà.
Moi, je trouve que, même chose que tu disais, Brian, c'est les répercussions des fois des commentaires de haine. N'importe quoi qui est un peu audacieux là, du côté de l'ouverture, ça va venir avec son backlash. Puis j'ai l'impression qu'on le subit un peu. La série est tellement populaire, ça buzz en ce moment sur Internet puis sur les médias. Fait que c'est vraiment positif, mais ça amène son lot de personnes, peut-être masculinité toxique, là, qui sont comme contre. Ça fait comme un faux débat dans la sphère que je trouve un peu absurde, là, comme l'entrevue avec les joueurs de hockey hier.
Tout le monde en parle, oui.
Ah, j'ai pas vu ça.
On est diffusé quand même une semaine plus tard, mais oui, c'est correct. C'est la
semaine dernière. Pardon.
Ouais. Alexis, est-ce que ça te fait. Il nous reste une minute. Est-ce que ça te fait résonner un petit peu ce qu'on vient de dire?
Ben, c'est sûr qu'il va toujours avoir. Si je comprends bien, là, parce que j'ai pas vu la série, là, mais c'est sûr que peu importe ce qu'on va écouter, il va toujours avoir des trucs qui vont un peu venir nous gosser en tant que membre de la communauté, qui vont faire « Ah, ça, c'est-tu... Je trouve que c'est limite à ça... » Mais sauf que c'est vraiment rendu propre à chacun.
Ouais,
J'espère en tout cas que de nos jours, c'est pas fait de façon volontaire pour blesser ou truc de même.
Je pense pas. Mais c'est sain d'avoir des débats. On va devoir arrêter là-dessus, Alexis Comte, donc acteur. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Joël Prud'homme. Merci aussi à Brian Saint-Louis.
Merci
tout le monde d'avoir été là. Merci à l'équipe de Canalem. Mais surtout, merci à toi, Mathieu Tessier, d'avoir fait la mise en onde aujourd'hui. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis l'animateur, le recherchiste et réalisateur de cette émission. À la semaine prochaine.